thématique qui nous guide ce soir. La crise en fait du Covid-19, comme vous le savez, est très singulière, c'est une pandémie mondiale. Elle diffère en ce sens des autres crises majeures vécues ces dernières décennies, de par ce caractère mondial. Il y a pourtant des points communs. Et ce que je vous propose, c'est d'évoquer en fait comment un processus de résilience se met en place dans les phases de crise. Et pour cela, donc, de définir préalablement la résilience, de vous donner des exemples en montrant les impacts sur les activités économiques pour deux étapes, enfin plutôt une étape même en particulier du processus que je vais décrire, et puis d'ouvrir sur un questionnement et un partage, un échange avec vous sur ces questions. Donc, en ce qui concerne le processus de résilience, tout d'abord, revenons à la définition de résilience. Bon, il y en a plusieurs, selon les domaines dans lesquels ce concept ou cette approche est utilisée. On attribue le mot résilience au terme latin résilio, qui veut dire rebondir. Ce mot résilience a été aussi employé est toujours employé dans le domaine des sciences physiques, où un objet résilient est celui qui revient à la situation antérieure après une perturbation. Comme je le disais, donc en France, c'est principalement Boris Cyrulnik qui a fait connaître ce concept auprès du grand public. Et pour lui, la résilience, c'est un anti-destin, c'est-à-dire il définit la résilience comme la capacité à vivre, à réussir à se développer en dépit de l'adversité, mais différemment selon une organisation qui n'est pas forcément plus forte ni plus fragile, mais juste différente. À noter également dans sa définition, la présence d'un réseau extérieur soutenant est indispensable à la démarche de résilience. En tout cas, ça découle de ses observations, et c'est là où il a évoqué une notion que vous connaissez peut-être aussi, que sont les tuteurs de résilience, c'est-à-dire ça peut être des personnes ou des manifestations d'action, mais plutôt généralement des personnes qui, sur le parcours, au moment où on traverse une crise, vont être en capacité de soutenir en fait la personne qui vit ces changements. Alors, je dis la personne, mais on le verra, la résilience concerne les systèmes en général, qu'ils soient humains, des organisations, des territoires. Alors, cette définition de la résilience, elle a évolué en ce qui concerne les politiques publiques et en particulier les questions d'aménagement du territoire. Et je vous présente, vous avez dans le diaporama une slide avec un texte qui est un peu long, mais que je vais prendre la peine de lire parce qu'il me semble qu'en le lisant aujourd'hui, c'est-à-dire 12 ans après qu'il ait été écrit, il est intéressant de voir ce qui était déjà posé à l'époque et comment ça fait écho à notre situation actuelle. Chacun appréciera, peut-être qu'on partagera à la fin de cette conférence vos remarques à ce sujet. Donc en 2008 a été écrit un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale qui a été d'ailleurs édité aux éditions Odile Jacob, la documentation française. Et donc ce livre blanc indiquait que la résilience, la volonté et la capacité d'un pays, de la société et des pouvoirs publics à résister aux conséquences d'une agression ou d'une catastrophe majeure, puis à rétablir rapidement leur capacité de fonctionner normalement ou tout le moins dans un mode socialement acceptable. Elle concerne non seulement les pouvoirs publics, mais encore les acteurs économiques et la société civile tout entière. La nature des crises possibles dans les prochaines années appelle la prise en compte dans la stratégie de sécurité nationale de l'objectif de résilience. C'est en effet un devoir pour l'État de se préparer à répondre aux situations dans lesquelles pourrait être mis en cause la vie de la population ou le fonctionnement régulier de la vie économique, sociale ou institutionnelle du pays. Cela suppose une organisation des pouvoirs publics conçue dès le temps de paix pour prendre en compte les hypothèses du temps de crise et l'établissement de priorités dans les capacités de renseignement, d'analyse et de décision. La résilience suppose aussi d'organiser la coopération entre l'État et les collectivités territoriales, puis la complémentarité des moyens et entre l'État et les entreprises privées dans les secteurs stratégiques, je passe, accroître la résilience des institutions démocratiques, de la société et de la vie économique constituera donc un objectif fondamental de la stratégie de sécurité nationale mise en œuvre par l'État et l'ensemble des collectivités publiques. Je pense que lorsque l'on sera amené à faire le bilan de la gestion de cette crise de 2019, cet article un petit peu socle, je dirais, permet de mettre en perspective ce qui était prévu il y a déjà 12 ans et ce qui a été mené en termes d'organisation des pouvoirs publics et d'action de solidarité entre les acteurs. Par ailleurs, dans ce paragraphe, il y a deux choses qui me semblent importantes. On parle de résilience comme l'intention de rétablir rapidement la capacité de fonctionner normalement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon de la prévention des risques majeurs le retour à la normale. Et le deuxième aspect que je me permets de souligner, c'est qu'il est indiqué que cela suppose d'organiser la coopération entre l'État et les collectivités territoriales. Et je pense que la crise du Covid-19 nous interroge vraiment sur les modalités, en fait, de coopération entre l'État et les collectivités, avec pour l'instant, pour autant, un cadre qui est plutôt hiérarchisé entre les pouvoirs du préfet et le pouvoir du maire, pouvoir de police, j'entends. Voilà. Donc, voilà, on pourra en reparler tout à l'heure. Alors, dans le domaine de la prévention des risques majeurs, au niveau international, donc une définition a été posée en 2015, ce qui montre quelque part que l'utilisation, l'usage de ce concept est relativement récent à l'échelle des politiques publiques en matière de prévention des risques majeurs. Qui, elles, ont plusieurs décennies, hein, et on remonte plutôt aux années, enfin, tout dépend des risques, bien sûr, voilà, mais en ce qui concerne les grands piliers, que sont réduction du risque à la source, information préventive, maîtrise de l'urbanisation, gestion de crise, on a des lois vraiment phares dans les années 80. Voilà. Donc là, c'est dès 2015 que l'on parle de la résilience, qui est une notion utilisée donc au niveau international. Et donc qui a été évoqué lors de la conférence de l'ONU à Sendai en mars 2015. Et l'ouvrage donc réalisé d'ailleurs par Clara Villar et Bernard Guizot en 2017 rappelle la définition qui a été retenue, qui est la capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société exposée au risque de résister, d'absorber, d'accueillir et de corriger les effets d'un danger en temps opportun et de manière efficace, notamment par la préservation et la restauration de ses structures essentielles et de ses fonctions de base. Donc là aussi, on est dans l'idée donc de revenir à la normale et en même temps de corriger les effets du danger. Voilà, on est dans quand même la restauration et la correction. Voilà, d'autres définitions ont été ensuite posées. Pour ma part, la crise du Covid-19 m'a amené à préciser finalement la perception que j'avais de la résilience territoriale de par ma pratique professionnelle, puisque que j'ai eu notamment à mener des projets en fait d'accompagnement de collectivités dans la perspective de les accompagner dans une démarche de résilience, c'est-à-dire à partir en fait de contraintes, de voir quelles pouvaient être les opportunités en fait qui se dégageaient et comment à partir de ces opportunités, de nouveaux projets, de nouvelles organisations pouvaient se mettre en place, notamment pour gérer les risques majeurs. Et là en particulier, c'était le risque industriel et Bernard a cité l'essai en référence où je décris en fait le projet, la démarche et comment nous y sommes pris pour cela. Et donc, la définition que je précise ici, c'est que finalement, la résilience territoriale est un processus dynamique, et ça, Bernard Guizot, d'ailleurs, qui a aussi été auteur de différents ouvrages sur ces questions, le précise également, comme de nombreuses personnes aujourd'hui en France qui s'intéressent à ces questions. Mais ce que je précise, voilà, c'est qu'il s'appuie sur des étapes. Une phase de dysfonctionnement préalable, un choc, la gestion de crise, le repositionnement, la transformation et une phase de renaissance. Et pour plus de précision, donc j'ai écrit un article en référence à ces étapes, mais je vais prendre le temps de vous les décrire pour que vous compreniez concrètement ce qu'il en est, et notamment à l'aune de la crise du Covid-19, liée au Covid-19. Alors, En fait, ces étapes, par exemple, avec la crise du Covid-19, en ce qui concerne les dysfonctionnements préalables, vous avez certainement constaté également à travers des observations, des lectures et tous les sujets qui étaient déjà au travail ces dernières années, ces dernières décennies, ont montré donc en termes de dysfonctionnement les atteintes à la biodiversité, les inégalités sociales et économiques, la mise en question même de la gouvernance mondiale en ce qui concerne la gestion des pandémies. Et dans cette phase de dysfonctionnement préalable, en fait, on s'aperçoit que par rapport à ces aspects, quand bien même de nombreux acteurs font avancer les choses en termes de prise de conscience, de débats, d'actions, bien sûr, en lien avec ces dysfonctionnements, il reste encore une part d'aveuglement, de déni et d'impréparation des organisations par rapport à des enjeux qui peuvent être très importants. Et en fait, qui sont souvent aussi importants, enfin, comment dirais-je, la nature de la crise et l'ampleur de la crise va être proportionnée, en fait, au niveau des dysfonctionnements. Donc, quelque part, elle va mettre un miroir, finalement, en face de ces dysfonctionnements. Ça aussi, d'ailleurs, Bernard, c'est un point, je sais, que tu as précisé dans différents écrits que tu as pu produire. Après cette phase de dysfonctionnement, il y a ce que j'appelle en fait une phase de choc. Enfin, c'est même pas une phase, c'est un temps précis, un temps très précis. Je dirais même c'est vraiment un temps que l'on peut dater et qui a même une heure et une seconde près. Dans la crise du Covid-19, j'identifie en fait le choc que l'on a vécu comme étant la mise en confinement généralisé en fait annoncée par le président de la République par voie télévisuelle en mars dernier. Parce que quand même la crise était déjà active, donc quelque part le danger se diffusait à travers le monde. Pour nous, le choc, en fait, c'est ce moment-là, en tout cas, je le détermine comme étant ce moment-là, parce que, il nous fait prendre conscience au même moment, donc vraiment collectivement, du danger, en fait, de l'énonciation du danger et de la mesure associée. Et cette mesure, ça va être rester chez vous. Donc, c'est une perte. Du coup, ce choc, il révèle en fait une perte. Donc là, ça a été pour nous une perte de mobilité. Une perte de liberté dans nos projections en termes de réalisation de projets. Enfin, bon, tout un chacun, nous pouvons préciser ce qu'il en était. Ce choc va déterminer en fait l'avant et l'après. Et dans les risques majeurs, on le voit aussi, hein, AZF, ça a été le moment de l'explosion. Bon, il faudrait le déterminer par rapport au risque naturel, mais voilà, une éruption volcanique, enfin, voilà, il y a quelque chose qui a lieu à un moment donné. Après cette phase de choc, on rentre dans la phase de gestion de crise. Donc là, c'est la mise en place des consignes, c'est la recherche des moyens pour faire face, le déploiement des dispositifs de gestion de crise qui sont déjà établis. La mise à niveau de dispositifs, hein, on a bien vu là aussi qu'ils étaient mis, je dirais, à jour semaine après semaine, avec encore des évolutions et avec toute la phase de tâtonnement, hein, qu'il y a eu et qui est liée à l'organisation de base préalable en termes de gouvernance des risques, justement. Et pendant cette phase de gestion de crise, qui est bien sûr très importante, qui peut être aussi douloureuse, eh bien, on va avoir, et heureuse aussi, en fait, il y a plusieurs aspects. On va avoir des vulnérabilités qui vont être exacerbées. Et en tout cas, la crise du Covid-19, de mon point de vue, a vraiment eu cet effet-là. C'est-à-dire qu'elle a, je l'ai nommée dans mon article comme étant une crise des vulnérables parce que elle a touché ben, les personnes qui étaient mal logées. Hein. C'est 4 millions de mal logés en France. C'est 935 000 personnes, 935 000 logements surpeuplés. Pour cela, je me suis appuyée sur le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre pour avoir ces chiffres. Ça va être donc aussi des effets psychologiques hein, sur les personnes, le fait d'être en confinement avec les effets sur des personnes vulnérables, que ce soit les personnes âgées, celles qui étaient en EHPAD, qui ont dû en plus se confiner dans leur chambre, ce qui était une perte de liberté supplémentaire. Pour les personnes qui ont pu être victimes de malveillance physique, être battues, voilà, comme vous avez peut-être lu des articles là-dessus. Et puis aussi notre système de santé qui est ce qu'il est avec la crise qui était déjà en fait mise en avant. La crise du Covid-19 et qui, du coup, a montré, en fait, à la fois, je dirais, sa force, mais aussi, les limites qui conditionnent même, d'ailleurs, l'organisation du confinement et du déconfinement, au regard de l'objectif de protéger les vies humaines. Bien sûr, la crise, elle fait aussi naître des opportunités, des solidarités, il y a des élans de bienveillance, de cœur, de générosité. Et ce n'est pas du tout à négliger sur le plan financier, bien sûr, hein, avec tous les dispositifs d'aide qui ont pu être déployés, annoncés comme étant sans limite par l'État dès le départ. Et donc, ces points, en fait, exacerbés vont être, en fait, le ferment de l'évolution et de la transformation dans le processus de résilience. Pour l'instant, de mon point de vue, on est encore là-dedans. Enfin, pas que de mon point de vue, je pense que vous partagerez aussi. Mais voilà, on est encore, on vit avec le risque, donc on est encore en phase de crise. On est dans une phase qui n'est plus aussi aiguë, mais qui perdure. Ça veut dire qu'il y a encore ces vulnérabilités qui sont là et qui seront à observer, je dirais, dans quelques mois pour pouvoir savoir comment et quoi faire. Après cette phase de gestion de crise, on a une phase de repositionnement. C'est là, c'est une phase en fait où on identifie les solutions à pérenniser. Donc, bon, bah, par exemple, là, le télétravail, dans les moyens hospitaliers qui ont été déployés, les déplacements qui sont en question, l'alimentation aussi, et puis il y a de nombreux débats en cours, des réorganisations politiques même d'ailleurs. On est, voilà, on voyez, d'ailleurs, on sent qu'elle démarre aussi un petit peu cette phase-là. Et c'est une phase de fragilité parce que à la fois on a des certitudes sur ce qu'on ne veut plus faire, c'est-à-dire dans la phase dans le processus, voilà, on va ressentir même qu'il y a des choses, on va prendre conscience qu'il y a des choses qui ont pu fonctionner par le passé et dont on ne veut plus. Mais c'est aussi ce qui a été mis en place pendant la crise et qui peut perdurer et qui peut nous ramener en arrière. Et c'est notamment tout ce qui est en lien avec la privation des libertés, c'est tous les débats autour du tracking par rapport à nos données, dans le but au départ et même en ce moment de veiller à la non-diffusion du virus, mais qui, si ça devait perdurer, pourrait atteindre à des libertés plus fondamentales. Donc, vous voyez que le repositionnement, c'est une phase de fragilité comme ça. Mais en même temps, c'est aussi dans cette phase qu'on a un peu tout ce que j'ai appelé désir d'avenir, sans faire de politique. Je ne sais plus quel homme ou femme politique avait utilisé ces termes, mais c'est pour dire que. Voilà, en même temps, toutes les opportunités qui sont nées, elles créent un élan et on a envie d'aller de l'avant et de créer, voilà, le jour d'après, les nouveaux projets. Enfin, voilà, il y a aussi un renouveau qui se fait à ce moment-là. Une fois que, justement, on a passé cette phase de repositionnement et finalement, on arrive à l'heure des choix, finalement. C'est-à-dire que là, on pose en fait les programmes, on pose les lois, on fait des vrais choix en fait, par rapport à tout ce qui a été vécu et ce qui a pu être mis en place de manière ponctuelle va être développé, pérennisé, élargi. C'est le cas par exemple pour le fonds Barnier au départ qui était là que pour les expropriations des biens exposés au risque d'inondation et qui petit à petit en fait. Alimente et finance de manière plus large la politique de prévention des risques d'inondation. Voilà, on peut avoir en fait des choses qui vont se pérenniser sur le plan réglementaire, sur le plan de l'action publique, de l'action civile ou autre. Et on peut aller en fait avec cette phase de transformation vers une forme de renaissance à soi-même, hein, quand je dis à soi-même, pour les systèmes, pour les organisations, et vers la mise en place de nouveaux modèles. Ça a été le cas après la Seconde Guerre mondiale avec la mise en place du système de sécurité sociale, en tout cas moi je le comprends comme ça, donc en 1947, et puis, ou 45 d'ailleurs, j'ai une petite hésitation, mais juste après-guerre en tout cas. Et ça peut être de nouveaux modèles politiques aussi. Et là aussi, je pense que dans la phase dans laquelle nous sommes, il est intéressant, voilà, d'observer ce qui se passe, d'être acteur, hein, aussi pour ceux qui souhaitent s'impliquer, bien sûr, dans ces constructions de nouveaux modèles, et d'autant plus que, en fait, ces modèles, ces choix, comme je le disais, font écho en fait au dysfonctionnement préalable. Ce qui veut dire aussi que, de mon point de vue, si on ne saisit pas en fait entre guillemets ces opportunités que la crise nous présente, et ça malgré en même temps, je dirais tous les deuils hein, qui ont pu être faits aussi, la société qui a été éprouvée, eh bien on risque en fait à la prochaine crise de vivre les choses de manière plus difficile. À tous les niveaux, hein, je dirais même psychique, psychologique, pratique, organisationnel, et à du coup être plus vulnérable. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce plan. Est-ce que éventuellement vous voulez qu'il y ait des questions déjà sur cette partie-là ou est-ce que je continue de dérouler? Qu'est-ce que vous préférez? Vous pouvez l'indiquer dans le chat éventuellement si. Oui, c'est Ségolène
On
Royal
pourrait
pour lui
peut-être
dire de venir,
demander d'aller écouter le chat et de terminer l'exposé avant de passer à une phase de questions-réponses.
OK, allez, très bien, ça marche. Donc, ce que je voulais faire dans cette conférence, c'était de faire un petit focus sur les activités économiques, en fait, la résilience des activités économiques. Alors, tout d'abord, en précisant un petit peu le contexte finalement dans lequel nous sommes, donc pendant cette crise-là, enfin, plus exactement là, on est dans ce qu'on appelle l'ère de l'Anthropocène. Et finalement, les entreprises se sont développées ces dernières décennies avec certaines logiques. Et là encore, en ayant travaillé avec Bernard sur ces questions, il a posé justement ces différentes périodes. Et donc, je me réfère en fait à ce qu'il a présenté, qui est assez pédagogique, je trouve, avec ces trois phases entre les années 50 et 80, où on est dans une dynamique de croissance partagée. Des années 80 à 2010, on est dans une phase de globalisation financière et il semble que là, on aborde en fait une phase de dynamique avec des changements globaux liés aux enjeux donc écologiques et aux effets qu'a pu induire justement la globalisation financière et la mondialisation de l'économie sur à la fois notre santé avec le développement urbain aussi, enfin beaucoup d'enjeux finalement qui nous traversent. Ce que je voudrais préciser donc en particulier pour zoomer à la fois sur les activités économiques et sur la partie dysfonctionnement en fait préalable qui peut toucher les activités économiques, c'est que en fait, j'ai observé trois points de fragilité en fait liés donc à trois principaux niveaux d'interaction systémique. Les entreprises, elles sont reliées à un territoire, hein, celui sur lequel l'activité est exercée, et ce lien au territoire en fait détermine le niveau d'exposition au risque environnemental notamment, puisqu'on parle des risques majeurs, donc en ce qui concerne les risques naturels, les risques technologiques, par exemple. Mais le Le deuxième point d'interaction systémique est aussi lié au système entrepreneurial interne et externe de l'activité. Et ce système-là, il va déterminer un niveau de risque économique pour l'entreprise avec pour enjeu le statut professionnel, les fondations économiques et assurantielles, comme en effet, selon l'état de la situation de l'entreprise, les crises majeures vont être plus ou moins impactantes. Et les modes de reliance, enfin, ou en tout cas de lien à des réseaux professionnels et commerciaux vont favoriser ou non le rebond. Quand je parle de système entrepreneurial interne et externe de l'activité, ce que je veux dire, c'est que voilà, les choix que l'entreprise va faire, son statut professionnel, et là, justement, je rebondis aussi en écho à l'expérience que j'ai pu avoir, mais que j'ai partagée, observée chez d'autres aussi, va vraiment avoir un effet sur la robustesse déjà de l'entreprise et ses capacités à rebondir en cas de crise. Je vous donne un exemple, justement l'activité artistique hein, qui est très touchée aujourd'hui de manière massive. On pourrait citer le tourisme, enfin il y en a d'autres hein, qui sont, il y a des pans entiers de secteurs économiques qui sont touchés. On peut se poser justement cette question de leur organisation interne et de nombreux artistes en fait ont des statuts d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs, d'intermittents du spectacle et leur mode de fonctionnement, j'ai pu échanger avec plusieurs d'entre eux, montre de vraies failles au niveau contractuel par exemple et au niveau même de leur statut juridique et ils vivent la crise de manière très aiguë de par ces faits-là. C'est un petit exemple. Voilà. Et puis, enfin, le système de solidarité auquel l'entreprise est reliée va déterminer un niveau de risque sociétal aux dispositifs de réduction de la vulnérabilité aux catastrophes qui peuvent les concerner, donc, et par rapport aux assurances et par rapport aux accès aux aides d'urgence disponibles. Donc, selon en fait l'entreprise en fait aura mis en place, elle sera plus ou moins vulnérable au moment des crises. Alors, j'avais deux exemples effectivement que je voulais aussi vous donner par rapport à cet aspect-là. En particulier, donc, au moment de, enfin, en ce qui concerne justement le système territorial qui est considérablement touché, bon, un exemple simple, mais c'est quand même l'ouragan Katrina et les inondations qui s'en sont suivies. En fait, 41% des entreprises de la région métropolitaine se trouvaient dans la zone submergée. Et les impacts économiques ont été donc directs et indirects. Et il y a une première estimation des pertes économiques qui avait été faite qui était de l'ordre de 50 milliards de dollars environ. Et ces estimations ne sont pas à ce jour terminées. Et c'est vraiment des secteurs vraiment à la fois majeurs qui ont été touchés comme des petits commerces en fait, donc sans distinction. Et en ce qui concerne le système entrepreneurial interne et externe, donc je vous ai effectivement donné l'exemple du milieu artistique, mais on peut le voir aussi pour l'aéronautique avec la mise en question de développement de la filière. Et puis pareil pour le milieu de la restauration et l'hôtellerie, où là, justement, les chiffres d'affaires et la trésorerie a été touchée. Donc, quand je disais, voilà, dans les systèmes de l'entreprise, en fait, il y a plusieurs aspects qui sont concernés. Donc, c'est à la fois tout ce qui la relie à son environnement, mais aussi sa structure interne et puis les liens avec les dispositifs d'urgence. Donc, je ne sais pas si vous avez été attentif aussi à ça, mais il y a de nombreuses entreprises dont, pour ma part, j'ai même été étonnée qu'elles étaient des entreprises anciennes. Des parcs touristiques qui existent depuis plusieurs décennies, qui ont des clientèles importantes à l'année, etc., et qui, en fait, pour qui deux mois de trésor, de chiffre d'affaires en moins peut les faire fermer. Enfin, voilà, c'est vrai pour de très, très nombreux exemples. Et je dois dire que c'est une vraie interrogation que de voir combien l'économie est vulnérable sur le plan ne serait-ce que financier avec deux mois de crise, quoi. J'en ai fini pour la présentation à la fois de la définition, des exemples. Voilà, donc je suis à votre écoute. Je voulais finir cette conférence avec une question ouverte, notamment sur le rôle pour les organisations telles que l'AFPCN dans le processus de résilience. Et en particulier, préciser que chaque acteur est agissant dans la période. Et en même temps, voilà qu'au niveau de l'AFPCN, de nombreux adhérents développent des méthodes et des recherches qui peuvent être intéressantes à optimiser en fonction des enjeux en cours. Donc, je dirais, voilà, on a là un peu de temps pour parler ensemble. Il est 18h15, donc voilà, c'est peut-être le bon moment. Merci de votre attention.
Merci Sandra. Est-ce que, écoute, merci pour cet exposé intéressant et en tout cas à titre personnel, je retiendrai l'intérêt de la décomposition en 5 séquences, en 5 étapes du processus de résilience qui est vraiment intéressant, y compris le lien qui est fait entre les dysfonctionnements et le choc. Choc qui peut être parfois créé, d'ailleurs, comme on l'a vu sur la question du confinement, puisque tu mets en avant la décision de confinement comme le choc véritable, alors que c'est une décision administrative et que c'est pas, bien entendu, ce qui génère le danger, hein, mais c'est une décision administrative. Donc, je trouve que ce lien qui est fait entre les dysfonctionnements et le choc parfois étant créé, généré pour engager la gestion de crise et sortir un peu de la crise à terme, est quelque chose de très intéressant dans cette présentation du processus de résilience. Est-ce qu'il y a les participants, des questions qui pourraient être exprimées, posées, soit au micro directement, vous ouvrez votre micro et vous proposer de prendre la parole, sachant que c'est peut-être une solution qui doit fonctionner, ou bien par le chat, par l'une ou l'autre des moyens qui vous sont donnés, l'un ou l'autre des moyens qui vous sont donnés. Est-ce que quelqu'un veut entamer?
J'ai une question sur le chat, là, Sandra, là, Régis. J'ai une petite question.
Oui, bonjour Régis. Ah, sur le chat, pardon, excusez-moi, je regarde. Alors, est-ce que tu penses qu'il va y avoir, à la suite de la pandémie, une demande d'expertise spécifique des acteurs économiques pour accroître leur résilience et réduire leur vulnérabilité? Une demande de la part des acteurs économiques?
Par rapport à ton métier, en fait, hein, où tu es quand même très ciblé sur justement le monde économique, tu as cité quelques exemples. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des demandes d'expertise tournées sur ces questions-là, d'entreprises qui prennent conscience de leur vulnérabilité, qui vont demander à des consultants de brasser toutes les thématiques qui pourraient les toucher? Enfin, tu citais un exemple, je crois, qui était intéressant, qui était l'impact financier, l'absence de trésorerie. Donc, ça veut dire qu'il faut éventuellement une palette d'expertise d'ailleurs très large. Et tu as aussi tout ce qui est absence de fournisseurs. En fait, tu as plein d'exemples des entreprises, notamment des artisans, des BTP, tout ça, qui n'ont pas pu intervenir parce qu'ils n'avaient plus les matériaux. Hein, donc, c'est finalement essayer d'évaluer toutes ces chaînes de défaillance. Et puis, enfin, j'ai fait un peu le distinguo entre accroître la résilience et réduire la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est vraiment, à mon avis, des points de blocage qui empêchent l'entreprise de continuer à travailler, quoi. La vulnérabilité, c'est peut-être un petit, enfin, la résilience, c'est peut-être un tout petit peu plus global. Voilà. Est-ce que tu sens une demande? Parce que je pense qu'il y aura une demande.
Oui, effectivement, donc à trois niveaux, tu as raison de préciser donc le niveau enfin l'accompagnement, d'abord, il existe déjà en fait d'une certaine manière, mais pas de façon globale, hein, je dirais, et pas forcément par rapport à tous les niveaux de risque. Donc, parce que c'est le rôle déjà, par exemple, des experts comptables, des comptables, de favoriser la solidité des entreprises. Elles peuvent conseiller, enfin, il y a pléthore de conseils juridiques et financiers sur ces aspects-là. Et les entreprises, justement, sont dans certaines logiques. Alors, justement, la question, c'est par rapport à ce type d'accompagnement, est-ce qu'elles ne sont pas dans des logiques, justement, financières qui appartiennent à l'étape précédente de globalisation financière globale? Et est-ce qu'en fait, les objectifs de ces accompagnements ne vont pas évoluer? Et ça, je pense que c'est en question, en fait, aujourd'hui, finalement. Ça, c'est la première chose. Après, il y a aussi ce qu'on appelle les plans de continuité d'activité. Donc ça, c'est vraiment en plein essor. À titre comparatif, en 1995 était mis en place le premier plan communal de sécurité, hein, je dis bien de sécurité, qui était expérimental à Saint-Égrève en Isère. Et les plans communaux de sauvegarde ont été généralisés en 2004. Donc, on voit le temps que ça peut mettre de généraliser des dispositifs d'accompagnement des activités économiques. Mais peut-être que là, ça va aller plus vite, justement. Mais en tout cas, ce qui existe déjà aujourd'hui, c'est des plans de gestion de crise spécifiques aux entreprises et de préparation des entreprises. Donc, plan de continuité d'activité, il y a une norme ISO qui existe. Il y a après des plans qui, eux, sont spécifiques aux risques majeurs. Donc, en fait, quelque part, ce qui manque, et tu as raison de le préciser, c'est cette approche, en fait, globale, multi-acteurs. Ça, je dirais, c'est pour l'échelle individuelle de l'entreprise. Mais après, il y a un autre questionnement, c'est le rôle des territoires, des acteurs du territoire et des collectivités, en particulier, dans l'accompagnement des activités économiques. Et là, je dirais deux choses. Je dirais autant il y a des aspects financiers qui peuvent être traités à l'échelle de l'entreprise ou du groupe, enfin bref, autant par rapport à l'approche des collectivités en lien aussi avec la prévention des risques majeurs d'ailleurs, là on va avoir des approches qui vont être plus portées sur les questions d'organisation des rapports, de contribution à la réorganisation des rapports commerciaux avec tout le débat justement de la production locale qui va se produire. Et ça aussi, c'est un point de réduction de vulnérabilité. Et c'est vraiment en question, on voit bien déjà là aussi que les débats apparaissent avec le fait de rapatrier certaines entreprises en France pour être moins vulnérables sur le plan de la production des médicaments, de l'alimentation, les circuits courts, etc. Voilà. Donc je dirais il y a deux échelles et à chaque fois, on est sur des approches, je dirais, globales aussi, ouais. Alors, il y a d'autres questions. Ça te parle, Régis? Alors, oui, sous réserve de solvabilité, les entreprises auront-elles les moyens de s'offrir cela? Alors, je n'ai pas compris, il y a peut-être une autre phrase avant. Alors, OK. Sous réserve de solvabilité, les entreprises auront-elles les moyens de s'offrir cela? C'est tout à fait juste. Justement, dans l'article que j'ai rédigé sur un processus de résilience mondiale en action, une opportunité hors du commun, c'est ce point-là aussi que je pointe, qui se passe dans la phase, si je reviens sur le tableau, qui se passe dans la phase de repositionnement et de transformation. C'est-à-dire que si on souhaite collectivement aller vers des repositionnements économiques pour faire face aux crises majeures, au sens large, pandémie, mais risques majeurs aussi, hein, parce qu'on voit bien avec les inondations et tout ça, bon, il y a des impacts économiques considérables, et une transformation, cela suppose un soutien économique. C'est-à-dire que là, le soutien économique d'urgence qui est déjà à l'œuvre et qui n'est pas négligeable, la question, c'est comment le pérenniser pour assurer la transformation. Et je pense là que, justement, le consommateur a un rôle à jouer aussi. Mais encore faut-il qu'il y ait une prise de conscience, des orientations qui soient partagées, etc. Alors, avis aux amateurs. Alors, ça, c'est... Alors, hop. Est-ce qu'il y a d'autres... Donc, voir aussi notre observatoire COVID. Donc, OK, effectivement. Toujours intéressant d'avoir des observatoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Juste, peut-être, c'est François Grunewald du groupe URD pour parler un peu de l'observatoire COVID.
Oui.
Donc, c'est un truc qu'on a lancé donc, dès mars.
D'accord.
Et qui produit régulièrement des notes. Donc, on a la première note s'appelait COVID du Nord, COVID du Sud, COVID des villes, COVID des champs. Et c'était un truc assez global, stratégique, et qui parlait évidemment des enjeux des différents impacts que sur l'économie que le Covid pouvait avoir, notamment les économies agraires du Sud, mais aussi urbaines. Le deuxième était beaucoup plus médical. La troisième note là, qui sort ce soir est très politique. C'est sur le risque possible de choc social.
Oui.
Comme on commence à voir quand même déjà en Colombie, au Brésil, même au Mali, hein, avec des interactions entre Covid, politique, djihadisme, etc. Donc voilà, c'est des éléments un peu de réflexion un peu global autour, enfin, mais en même temps très ciblé autour de différentes facettes de la crise coronavirus. Et avec l'idée de voir, donc les prochaines qui vont sortir vont être sur les problématiques coronavirus, migration et mobilité. Et ça va évidemment toucher les enjeux économiques. Et voilà, donc on est un petit peu sur cette dynamique-là où on produit un peu une note par semaine sur des sujets un peu divers. Et si possible, avec l'idée que y a des tas de pièges de la réflexion qui sont liés à toute l'incertitude et toutes les inconnues qui tournent autour d'une crise comme celle-là. On avait écrit il y a quelques années, il y a 10 ans, j'étais très intéressé de voir votre référence sur le papier blanc, le livre blanc de la Défense, parce que juste après la sortie du livre blanc, le ministère de la Défense nous a demandé de faire un peu ce travail sur les risques futurs.
D'accord.
Et en fait, on avait tout un travail là-dedans sur les risques sanitaires et les enjeux de préparation aux SAS. Il s'avère que si les armées, avec leur système NRBC, ont beaucoup travaillé quand même là-dessus,
Oui, absolument.
tout le reste politique, économie classique, voire économie sociale, est complètement passé par rapport à ce risque-là. Ebola, choléra, c'est des crises exotiques. Et on a oublié la crise du SRAS de 68-69. Hein. Tout ça, c'est complètement passé à l'as, cette mémoire-là. Et ce qui me semblait intéressant, et pour revenir à votre premier propos sur la résilience, nous, dans nos travaux, puisqu'on bosse aussi là-dessus depuis des années, on a vu, c'est un des facteurs de résilience, c'est la mémoire. Hein. La
Oui.
mémoire des crises passées, et pas des crispations, hein, mais des crises passées, c'est un facteur fondamental. Or, nos sociétés sont tellement dans l'immédiat du réseau social, on oublie complètement les crises passées. Donc, j'avais beaucoup aimé la dernière conférence là sur les crises passées, parce que sur les pestes, parce qu'on avait, c'est des sujets qui me semblent importants, mais je crois que c'est un des éléments sur lequel on a du mal à faire atterrir et les politiques et les responsables économiques qui sont souvent sur des pas de temps courts et qui oublient le temps long que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, c'est des éléments, je pense, de culture du risque qui est le temps long et c'est des éléments sur lesquels je pense que ça sera important que tout le monde travaille, y compris avec la SPCN. Je m'arrête là.
Oui, merci de ce témoignage et de vos travaux, de ce que vous faites. C'est vraiment fondamental. Je dirais deux choses. En ce qui concerne les articles que vous produisez actuellement et qui contribuent, en tout cas, ce que j'en comprends dans l'intention et les objectifs à éclairer la société civile et les acteurs, justement sur les positionnements. Enfin, pas justement. C'est pour favoriser le positionnement. En tout cas, moi, je le comprends comme tel, justement par rapport à ces risques que j'évoquais de crise dans la crise, justement qui peuvent être sociales ou politiques. Et il y a un vrai enjeu, il y a un vrai enjeu à ce niveau-là aujourd'hui, c'est certain, parce que les crises générant des systèmes, comment dirais-je, qui mettent en fait l'individu dans un état de respect de consigne, allant encore une fois jusqu'à l'extrême, hein, allant jusqu'à de l'enfermement. On l'a vu donc pour les personnes âgées dans les EHPAD, on le voit là pour les enfants qui sont dans les collèges. Je ne sais pas si vous êtes directement ou indirectement concerné par ça, mais c'est une anecdote que je trouve assez troublante en même temps. C'est qu'il y a des points qui sont dessinés dans les cours des collèges et pendant les récréations, les élèves doivent se poser sur ces points-là et ne pas bouger. En fait. Donc, ça va encore plus loin, on est dans un état d'urgence sanitaire. Donc, c'est comment collectivement voilà, en fait, cet état-là va pouvoir être dépassé pour en situation plus d'incertitude, aller vers autre chose. Et du coup, j'en viens au deuxième point que je voulais évoquer par rapport à ce que vous évoquez sur l'effort de mémoire, le facteur de résilience. Donc, je partage tout à fait votre analyse, bien sûr, mais je dissocierai la question de la mémoire sous deux angles. Pour moi, il y a la question, en fait, de la mémoire au sens du devoir de mémoire, c'est-à-dire de se rappeler en l'honneur de ceux qui ont payé pour la crise et que, quelque part, nous, on soit aussi en vie, finalement. Bon, ça, c'est surtout pour les guerres, mais pour les épidémies, il y a quand même quelque chose de cet ordre. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à en l'honneur de ces personnes de manière positive? Mais l'autre chose, c'est plutôt se souvenir pour dans le cadre d'un mode opératoire. C'est-à-dire qu'au moment de la crise, c'est-à-dire même en ce moment, c'est hyper important en fait de faire le point. Chaque acteur, en fait, là où il est un observateur de ce qui se passe, en capacité de consigner, presque dans un journal de bord, et c'est ce que vous faites à travers vos articles finalement, un certain nombre d'observations en lien avec les dysfonctionnements préalables qui doivent être retravaillés par la suite. Et chaque acteur dans son espace de travail est agissant en fait par rapport à ça. Donc pour moi, la mémoire, elle a deux facettes, quoi. Il y a le devoir de mémoire sous le plan de l'humanité, de l'humain et de la société, et il y a le devoir de mémoire sous l'angle opérationnel pour revenir sur ce qui s'est passé et faire évoluer les choses, quoi.
Sandra, on a deux questions qui sont reliées. En fait, il y en a une de Yann Degnaud qui dit on sait se transformer, enfin on essaie de se transformer par rapport à des crises en cours. Est-ce qu'on est capable d'anticiper des besoins de transformation par rapport à des crises futures? Et la deuxième question qui est liée, qui est de Freddy Vinet, c'est est-ce qu'on imagine suffisamment de scénarios liés à des crises majeures de type centrale nucléaire, maladie vectorielle en métropole ou séisme grave sur la Côte d'Azur.
Oui, alors l'anticipation des crises de demain est toujours délicate. Ben oui, c'est sûr qu'on n'a pas envie de vivre toujours avec l'idée qu'il va y avoir une prochaine crise. En même temps, on ne les voit pas toujours venir. Hein. Celles-ci, je ne suis pas certaine qu'on les ait vues venir. Donc, en fait, l'anticipation n'est pas évidente. La transformation ne serait donc toujours qu'une réponse à un choc. Je ne dirais pas que toutes les transformations suivent un choc. Mais je dirais que derrière chaque choc, il y a une opportunité de transformation. Je dirais plutôt les choses comme ça. Après, je dirais que sans le choc, on peut évoluer et que le choc conduit vraiment à la transformation. C'est-à-dire que c'est tellement fort en fait, après un choc, il y a des choses qu'on ne veut plus ou qu'on ne peut plus vivre, en fait, sauf à mourir, quoi. Donc, en termes de transformation au sens vraiment, changement vraiment, je pense que le choc est vecteur de ça, oui. Bon, après, c'est une histoire de mots, de définition, etc. Mais je dirais les choses comme ça. Et donc, en ce qui concerne la question de M. Vinet, donc il faut justement imaginer des scénarios. Alors, pour les scénarios, je trouve que l'expérience des risques industriels est intéressante parce que imaginez une raffinerie, c'est plusieurs milliers de scénarios d'accidents potentiels. Et pour autant, on constate aussi dans les accidents majeurs, bien que il faut que je creuse, mais en tout cas, pour échanger avec des collègues sur ces questions, on s'aperçoit que souvent l'accident qui a lieu, ce n'est pas le scénario qu'on avait imaginé. Donc c'est vraiment perturbant. Pour autant, le fait d'avoir imaginé tout un tas de scénarios peut limiter les conséquences du scénario qui n'avait pas été imaginé. Et ça veut dire que quand on travaille en fait sur ces questions de scénario, qu'en fait, quand on se prépare, c'est ce que disait d'ailleurs le livre blanc, on va travailler sur des aspects dont on ne sait pas s'ils vont se manifester en termes d'organisation, de gestion de la crise, etc. Mais pour autant, ça va favoriser une meilleure gestion de la crise. Alors, doit-on attendre des chocs de grande ampleur pour agir intelligemment? Combien de temps peut-on attendre ces chocs? Alors, ben, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, Audrey. Enfin, en tout cas, si c'est sous-jacent à votre question, on n'est pas censé attendre qu'il y ait des chocs pour agir par rapport aux enjeux préalables, aux dysfonctionnements préalables. Sauf que là, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux préalables qui ont été quand même appropriés par un certain nombre d'acteurs, mais dont certaines limites, avec justement ce que j'appelle de l'aveuglement, du déni et des choix aussi, de ne pas porter l'action sur certaines situations par rapport notamment à la pollution de l'air, les émissions de gaz à effet de serre, etc., mais c'est sur plein d'autres enjeux, bah, de ne pas le faire nous fait prendre des risques. Donc, voilà, on n'est pas obligé de chercher le choc, heureusement. Mais parfois, il arrive et il nous fait agir plus lourdement, plus fortement. Multi-scénario planning, oui, tout à fait. Pourquoi pas, oui, oui, tout à fait. Ensuite, notre expérience sur une dizaine d'exercices montre qu'on devient beaucoup plus agile si on n'est pas sur ce genre d'approche, c'est-à-dire l'approche de scénario, tant en anticipation que en gestion. Alors, je veux bien que la personne qui évoque ça puisse expliquer, ouais. C'est intéressant.
Ouais. Non, non, c'est une petite faute d'orthographe. C'est le correcteur d'orthographe qui a été plus vite que moi. Si on est sur ce genre d'approche de multiscénario, on s'aperçoit, et nous on a pu faire ça sur un certain nombre de cas, à la fois en anticipation de crise et en gestion de crise, en gestion d'événements.
Oui.
Être toujours à réfléchir qu'est-ce qui pourrait aller dans telle direction, qu'est-ce qui pourrait aller. Donc, ne pas avoir un scénario linéaire, mais fonctionner sur une gamme large de possibilités d'évolution permet d'être beaucoup plus efficace. Tant dans l'anticipation, nous on a fait des multiscénarios dans différents cas. Et en fait, on s'est rendu compte sur une dizaine de cas que que ça ne se passait jamais dans l'ordre prévu.
Voilà.
Mais que tout ce qui avait été réfléchi en multiscénario, quelque part, trouvait un emploi dans la réalité.
Donc, Voilà, effectivement, pour autant, le travail sur les scénarios, il a plusieurs vertus qui peuvent contribuer à mieux passer une crise, en fait. D'abord, voilà. Il permet d'identifier l'environnement dans lequel on se situe, interne, externe, comme je le disais, hein, les différents systèmes dans lesquels, par exemple, les activités économiques se situent. Il a comme vertu donc une meilleure connaissance de cet environnement, une meilleure connaissance des acteurs qui agissent aussi dans cet environnement. Et il a surtout pour vertu de favoriser les interactions humaines sur la préparation. Et là encore, ce qui va jouer, on le voit dans la crise du Covid-19, c'est les liens de solidarité. C'est-à-dire que quand il y a une crise, quelque part, ça va faire émerger en fait ces liens humains de manière plus intense. Et c'est parce qu'il y aura eu des temps de travail commun, peut-être à partir de ces scénarios, qu'au moment de la crise, ça peut mieux se passer. Donc, il y a les dispositifs, les scénarios, mais il y a aussi, bien sûr, l'humain. Et ce que je veux dire par là, c'est que tous les dysfonctionnements des organisations qui sont préalables à la crise, on va les retrouver à chaud. Tout ce qui n'aura pas été réglé à froid, on va le retrouver à chaud. Donc, quelque part, préparer une crise, quelle qu'elle soit, c'est travailler sur, la cohérence entre le système et les individus, entre le système et le projet, entre le système et les risques, entre le système et le territoire. C'est peut-être un peu abstrait, tout ce que je dis, mais quelque chose que je voudrais évoquer, que peut-être plusieurs d'entre vous partagez, mais sous l'angle aussi des aspects informels. C'est-à-dire que dans les organisations qui sont exposées comme ça, et elles le sont toutes en fait, à des risques, à des crises, La notion, justement, on parlait de mémoire, mais aussi de rituel, de temps de convivialité sont extrêmement importants pour augmenter le niveau de confiance entre les personnes et favoriser les solidarités quand elles ont besoin de se manifester au moment de la crise et post-crise. Alors, improvisation générale en 2020. Alors, attendez. Donc, en France, beaucoup de préparation pandémie entre CNRS et administration entre 2006 et 2012, puis tout est démonté et improvisation générale en 2020. Alors, est-ce que Stéphane, vous pourriez nous expliquer quelle était la nature de la préparation?
Oui, bonjour. En fait, par exemple, autour des travaux d'Isée Torny, qui était Safalinra à ce moment-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions sur la préparation aux pandémies suite à la vache folle, etc. Et vraiment, la gifle, c'est de voir à quel point tout le travail qui a été fait par des administrations pour se préparer semble avoir été abandonné. Et puis, on a une prise en compte en 2020 qui semble très, très improvisée, très réactive, heureusement tout de même, aussi par rapport à ce qui se passe à l'étranger et une fois que la crise a éclaté en France. C'est-à-dire que tous les signaux étaient même très, très à l'orange ou au rouge. On aurait pu mettre beaucoup plus tôt en marche des scénarios qui avaient été faits, qui avaient été tout de même très, très détaillés. Et le choc, c'est aussi pour nous, scientifiques ou administration, de voir à quel point il y a une réinvention, hélas, avec un deuil énorme, en particulier dans la région Alsace et maintenant la région Île-de-France. Et c'est tout de même très, très sidérant de voir à quel point il n'y a pas de constance administrative par rapport à ça. Donc, on peut beaucoup gloser, et moi je le fais aussi, sur des scénarios, il en faut, etc. Finalement, les scénarios qui ont eu une utilité, heureusement, on ne constate pas leur utilité parce qu'il n'y a pas de choc. Il y a tout de même l'idée que la prévention efficace se voit beaucoup moins, elle passe dans de la routine. Et heureusement, même si on peut faire du retour d'expérience sur des choses positives et parler de temps en temps des trains qui arrivent à l'heure, il y a tout un travail de fond où les scénarios et la préparation ne sont pas mentionnés puisqu'il n'y a pas de surchoc derrière et heureusement qu'on ne vit pas tous les ans une crise pareille. Et quant à, juste à mon avis, puisque j'ai la parole, là, je trouve qu'on a tout de même un emboîtement d'échelle dans les situations de crise, là, puisque ça va de l'individu qui est soit en forme, soit malade, soit mort, avec les gens qui l'entourent, jusqu'à un niveau vraiment planétaire de la crise financière. Donc, on voit bien que la question de du confinement entre deux, il reste à une échelle nationale, ça a été fait par pays pour pays. Et la question globale, c'est la propagation sur la crise financière, où là, on ne sait vraiment pas dans quelle échéance il faut qu'on réfléchisse. Voilà, moi, je ne fais que livrer la question. Merci.
Ah oui, c'est sûr. Oui, sur le premier point, justement, comment dirais-je, la crise Covid-19 vous a effectivement ce choc, quoi, et la manière dont la crise a été gérée a mis en lumière pour vous, pour l'organisation dont vous faites partie, justement ces fameux dysfonctionnements. C'est-à-dire que je fais l'hypothèse que ce que vous évoquez de non-appropriation, si je comprends bien, des recherches et des éléments de d'analyse, d'études et de propositions que vous avez pu faire à l'administration pour favoriser la gestion de crise, est-ce que ça ne met pas en lumière peut-être déjà un dysfonctionnement relationnel entre votre structure et l'État, déjà qui existait déjà avant? Je vous pose la question. Oui, Monsieur Cartier.
Ouais, alors je ne sais pas si la question est vraiment m'est dédiée. Il faut que je sois très prudent puisque je suis membre du CNRS. au fond, c'est une réflexion beaucoup plus globale. Le CNRS est bien sûr réactif, un grand institut, est très, très impliqué dans la recherche de solutions en ce moment. Et pour autant, il y a tout de même une réflexion à avoir globalement dans les administrations où, là, je vois dans les réflexions qui arrivent dans les chats sur des questions sur les séismes, sur... quand on fait des enquêtes en administration depuis 10 ans, on a un peu le vertige de voir qu'on attend énormément de gens, des gens très solitaires, on attend énormément d'eux, avec des moyens très très faibles, un turnover très fréquent, et au fond, une croissance des prises en charge souhaitées au niveau des lois, au niveau des réglementations. Et quand on fait des enquêtes et qu'on va vraiment avec des gens qui se lâchent un peu en enquête, quand on passe l'étape des chefs de service qui ont le discours obligé, quoi, c'est un peu le vertige, hein, quand on a sur des départements sismiques des gens responsables des risques naturels qui n'y connaissent rien, mais vraiment rien, et qui disent « je n'ai pas l'argent pour acheter le code ». On me demande d'appliquer un code qui m'était fourni, qui était fourni à mes prédécesseurs. Là, il faut que j'aille chercher un budget européen pour acheter un code parce que ça vaut 900 euros. Donc là on se dit, attendez, il y a un décalage énorme. On a des efforts qui sont importants et qui sont constants au niveau de la représentation nationale qui vote des lois, etc. Mais le décalage dans l'administration, et plus on approche du terrain, plus ça laisse les gens dans une frayeur terrible. Là, on le constate au niveau de cette crise-là. C'est se retrouver avec des agences régionales de santé qui se trouvent en première ligne à jongler avec des tas d'éléments, mais qui n'ont même pas de retour, visiblement. Je ne fais que scruter la presse, là, ce n'est pas de l'enquête, qui n'ont pas de retour sur la disponibilité des lits dans les cliniques. Donc, on voit bien que Il y a des temps d'adaptation qui sont presque de l'improvisation. Et c'est pas jeter la pierre à ceux qui sont en agence régionale de santé. Ma situation est beaucoup plus favorable aujourd'hui que la leur.
Mmh. Ok, en tout cas, ça me fait penser à d'autres organismes que le CNRS qui sont sollicités au moment des crises. Parce que ce que j'entends, c'est aussi la question de la sollicitation qui n'a peut-être pas eu lieu pour cette crise-là par rapport à des travaux qui ont déjà été faits, c'est ça?
Alors, je vais abréger, mais c'est même beaucoup plus perplexe. C'est que les travaux ont eu lieu, ont commencé à être diffusés en administration, parce que c'était des travaux communs avec les administrations, autour des années 2010, et tout ça semble s'être évaporé.
Mmh. Oui, je comprends. Donc après, c'est vrai, je pense que c'est une problématique qui est révélée, et il faut faire le tour pour effectivement identifier les enjeux en lien avec ça, par rapport à des objectifs de... Il faut presque arriver à démontrer finalement en quoi les travaux qui étaient réalisés précédemment aurait pu permettre en fait une gestion de crise plus efficiente, plus adaptée, enfin voilà, selon les sujets que vous avez pu aborder en lien avec les pandémies, par exemple. Je vais continuer parce qu'il y a d'autres questions. Alors, il y a notamment Bernard, tu m'aides.
Oui, il faudra qu'on pense à terminer dans quelques minutes. Oui,
c'est ça, voilà, parce que effectivement, il est 7h moins 10. Peut-être on se dit jusqu'à 7h et puis...
Je n'ai pas vu beaucoup d'autres...
Il y avait comment se préparer concrètement aux risques couplés, virus sanitaire et informatique, confinement et séisme ou cru, par exemple. Oui, là, c'est vraiment... comment dirais-je, il faut vraiment considérer, encore une fois, le système que l'on va... En fait, c'est une mesure, hein, tout ne se décrète pas. Il y a des dispositifs qui existent, en fait, hein, qui sont déployés par l'État par rapport aux différents risques. Il y a des outils pour analyser les vulnérabilités, justement, informatiques, bâtimentaires, etc. On a pléthore d'experts sur ces questions-là, donc il y a quand même une question de coût. En fait, la question, elle est là aussi. Après, je dirais que Voilà, pour les activités économiques, c'est le responsable d'activité qui doit faire ça. Il le fait quand il y a de l'accompagnement, y compris financier. Il y a des dispositifs pour ça, quelques-uns en France selon les secteurs géographiques. Il le fait si, voilà, parce qu'il y a de la prospection de tel ou tel acteur qui va le démarcher pour lui montrer les avantages, inconvénients, voilà, mais qui ne va pas forcément avoir d'approche globale. Encore une fois, c'est une bonne question. Tout ça est en train d'évoluer auprès des activités économiques avec ce qu'on appelle notamment les plans de continuité d'activité. Qui demande du coup un niveau d'expertise, finalement quand même, ou en tout cas des ressources complémentaires. Ce qui me semble important, c'est le mode de fonctionnement citoyen, entreprise, autorité publique, expertise, est-il plastique et apte au rebond? Ben oui, c'est à construire, c'est sûr. Je pense que c'est intéressant de partir des territoires et de voir comment là les territoires ont vécu la crise et comment justement cette architecture que vous décrivez qui relie ces différents acteurs peut s'organiser, déjà partager les constats et s'organiser avec en même temps des enjeux politiques qui traversent ça. Donc c'est pas simple, mais voilà, selon les territoires, il faut essayer d'avancer. Donc là, il y a un remerciement et une invitation à proposer des webinaires. Je pense que ce n'est pas propre à la gestion de crise. Oui, ok. Là, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions. Je te laisse conclure peut-être, Bernard.
Bah écoute, Sandra, en tout cas, merci pour cette intervention très intéressante et puis qui a ouvert sur des discussions également qui conduisent à envisager le sujet de façon très large, la résilience et aussi les dysfonctionnements qu'on a pu observer dans la gestion de la crise du coronavirus, mais également sur le fonctionnement plus général de la gestion des risques, sur la culture du risque, sur certaines discontinuités qu'on a notées dans le fonctionnement de l'administration des programmes de prévention des risques, un certain oubli qui se produit. Et effectivement, quand on commence à poser un petit peu les jalons que tu as posés dans les étapes du processus de résilience, on voit qu'on ramasse quand même pas mal d'éléments à travailler en commun pour éviter la question qui a été aussi beaucoup posée par les participants, c'est comment anticiper les crises à venir, et notamment sans attendre un choc. Et je crois qu'on pense tous à la question du changement climatique qui pose la question depuis un certain nombre d'années maintenant du fait qu'on ne fait pas assez pour limiter les effets du changement climatique. Et là aussi, on se demande s'il faudra un choc important pour que les choses évoluent de façon significative. Donc, on espère qu'on n'aura pas ce choc et en tout cas que les choses vont évoluer dans le bon sens. Mais on voit qu'on a des enjeux là qui sont très, très liés entre les dysfonctionnements qu'on observe, les processus dommageables progressifs et les chocs qui interviennent. Et je reviens sur cette question du lien entre les dysfonctionnements et les chocs, qui est peut-être au cœur de la question que tu as posée de la résilience ce soir. Voilà, en tout cas, merci Sandra, merci à tous les participants à cette visioconférence, à cette webconférence. Merci à Roland Nussbaum et à Justine Loubry pour l'organisation également. Et puis donc à bientôt, puisque je crois qu'en tout cas, il y a une prochaine webconférence qui est prévue le 9 juin. Mais je ne connais pas le sujet, donc je ne pourrais pas vous le donner ici pour ce qui me concerne. Voilà, si Roland n'a rien à rajouter, on propose de terminer cette webconférence.
En tout cas, merci à vous toutes pour pour votre participation.
Très bien, merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir.